BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui s'occupe de votre argent au quotidien. Aujourd'hui, on va parler investissement locatif, on va parler matières premières et puis on zoomera sur le secteur du luxe. C'est dans quelques minutes, mais avant ça, c'est l'heure du journal.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collo.
Et le coup près tombe aujourd'hui sur la dette française. Moody's et Fitch se prononcent ce soir sur la note de la France, alors que le gouvernement doit faire face à un dérapage des comptes publics. Les agences s'inquiètent du montant de la dette qui dépasse les 3 000 milliards d'euros, au-delà de 110% du PIB. Et une baisse de notation n'est pas à prendre à la légère, selon David Go, partner et CEO de B Durand Capital.
Les agences de notation ont toujours la même importance parce qu'en fait, dans une majorité de fonds institutionnels, donc les sociétés d'asset management, les fonds souverains, on organise encore énormément les screenings en fait et les revues de, et les sélections d'obligations par ces notations. Et donc lorsque vous chutez d'une catégorie, il y a des tas de gérants de fonds, de portefeuilles qui ne peuvent plus théoriquement venir acheter ou devront acheter moins de vos obligations parce que finalement le risque est considéré comme plus élevé et donc le coût en capital est plus important pour pouvoir acheter l'équivalent.
Le moral des ménages se dégrade en avril. Ils sont plus nombreux à estimer qu'il est plus opportun d'épargner et aussi plus pessimiste quant aux perspectives d'évolution de leur niveau de vie dans les 12 prochains mois. Et puis les créations d'entreprises poursuivent leur baisse. Leur nombre recule d'1,9% au mois de mars, après déjà une baisse de 0,6% en février. L'allemand ThyssenKrupp annonce la vente de 20% de ses activités sidérurgiques au groupe de Daniel Kretinsky et discute pour l'acquisition de 30% supplémentaire du capital. Les deux groupes envisagent par ailleurs la création d'une co-entreprise dans l'acier. Dans le secteur minier, l'anglo-américaine rejette l'offre de rachat de son rival BHP, la jugeant trop faible et peu attractive. Une opération à près de 39 milliards de dollars qui aurait donné naissance à la plus grande société de cuivre au monde avec 10% de la production mondiale. Le cuivre d'ailleurs qui dépasse les 10 000 dollars la tonne sur les marchés pour la première fois depuis 2 ans. Encore beaucoup de résultats d'entreprise. Ce matin, Total Energy améliore encore son bénéfice de 3% au premier trimestre à 5,7 milliards de dollars. C'est grâce à des prix du pétrole et des marges de raffinage soutenues et malgré le recul des prix sur le marché du gaz. Safran confirme ses objectifs pour cette année. L'équipementier aéronautique publie un chiffre d'affaires en hausse de 18% au premier trimestre à 6,2 milliards d'euros, tiré par les activités de service pour ses moteurs civils qui nécessitent davantage de pièces de rechange et d'entretien avec la hausse du trafic aérien. Et justement, ADP enregistre un chiffre d'affaires en hausse de près de 11% à 1,3 milliard d'euros au premier trimestre. C'est au-dessus des attentes portées par la bonne performance de ses activités commerciales à Paris. Le trafic global progresse de 11% avec 77 millions de passagers. Enfin, aux États-Unis, Microsoft fait mieux que prévu. Au premier trimestre, le bénéfice net ressort en hausse de 20% à près de 22 milliards de dollars tirés par le cloud, dont l'activité bondit de 26%. La branche pèse désormais 43% des revenus de Microsoft. Et puis des résultats supérieurs aux attentes aussi du côté d'Alphabet. La maison mère de Google réalise un chiffre d'affaires de plus de 80 milliards de dollars au premier trimestre et dégage 23,7 milliards de bénéfices nets portés par la publicité, le cloud et l'IA. Lorraine.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission qui vous aide à devenir au quotidien meilleur investisseur. Nous sommes en direct à la radio, à la télé, sur le web, tous les jours de 10h à midi sur BFM Business. On est aussi en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez à une autre heure du jour ou bien de la nuit. Nous sommes le vendredi 26 avril. Au programme de cette émission, le bilan. On va faire le bilan des publications de la semaine. Qui sont les gagnants ? Réponse avec François Monnier, le directeur de la rédaction rédaction du magazine Investir et Mounir Laghoun de la fintech Finari. On zoomera en particulier sur le secteur du luxe. Il y a un trou d'air de croissance dans ce secteur et au premier semestre, on peut dire que les États-Unis qui étaient porteurs, eh bien, ne le sont plus et la Chine déçoit par-dessus le marché. Quels sont les enseignements à tirer pour nos portefeuilles d'investisseurs particuliers? L'analyse d'Alexandre Ezez de chez Richelieu. Côté bourse, Antoine Depieux, Euronext en fil rouge dans la première partie de l'émission et nos deux traders pour suivre la séance du jour. Ce sera le match des traders vers 10h15. À 10h30, votre dose d'économie quotidienne avec Nicolas Dose. Les agences de notation vont-elles dégrader notre note? Le problème, nous dira Nicolas, ça n'est pas d'être dégradé, c'est d'être dans une pente descendante de manière structurelle. On vous coach aujourd'hui, on parlera de votre épargne retraite et de vos impôts. Vous avez un PER, un PEE, un PERCO. Que faut-il déclarer aux impôts et comment? Les bons conseils de l'équipe d'Epsor. Et puis on fera le point sur les matières premières, pétrole, cuivre et argent notamment. Benjamin Louvet d'Ophi Invest AM va nous expliquer pourquoi la tonne de cuivre à 12 000 $, eh bien c'est possible. Au programme, il y a vous. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous écouter. Merci pour votre soutien. Merci pour vos messages. Hier, Guillaume et Olivier ont été très sensibles à la féminisation de notre émission. Merci pour cette réflexion. Les visions féminines, visiblement, apportent beaucoup d'humanité au métier de CGP. C'est ce que m'écrivait Guillaume hier. Nous allons répondre à vos questions, ou en tout cas alimenter notre émission avec vos réactions. Vous nous écrivez, l'adresse est direct à bfmbusiness.fr ou bien en message privé sur LinkedIn, Lorraine Goumeau. Je vous lis. Il est l'heure de rejoindre Antoine à Euronext.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay. Votre rendez-vous avec eToro, plateforme de trading et d'investissement. Les traders intelligents choisissent les meilleurs outils.
Antoine, on vous retrouve à Euronext avec encore un peu du manque d'énergie ce matin. Il nous faudrait un peu de vitamines. On était bien parti, mais là, le rebond manque de jus. On est tout juste au-dessus des 8000 points.
Bah oui, on a toujours du mal à arbitrer les résultats d'entreprise. Alors c'est assez curieux, on en reparlera tout à l'heure, mais on a l'impression que ça se fait en plusieurs jours. C'est-à-dire que globalement, on a une réaction épidermique le jour de la publication des résultats, à la hausse ou à la baisse. Puis au fur et à mesure de la semaine, bah, on se dit, non, on va peut-être revenir là-dessus, c'est peut-être intéressant. Et du coup, on a des mouvements d'un peu plus long terme. Donc au milieu de tout ça, le CAC 40, lui, il gagne 0,32%, on est à 8042 points. Évidemment, la tech en principal stimulateur des marchés après les résultats extrêmement convaincant de la part de Microsoft et de Google. On a un Euronext Tech Leaders d'ailleurs qui gagne 1,3%. Le DAX à Francfort plus 0,6, c'est même score pour l'Eurostock 50. Alors, super idée les matières premières parce que mine de rien, et sans qu'on s'y attende, bah, sont les principales vedettes de ce début de séance. Déjà parce que le pétrole, encore une fois, au milieu des résultats, on a tendance à perdre un peu de vue les fondamentaux de marché. Le pétrole remonte. 88,15 $ pour le baril de Brent de mer du Nord. Et alors, les meilleures performances du CAC 40 et du SBF 120, là, en ce moment, sont signées par des compagnies liées aux matières premières. Saint-Gobain, plus 6%, 74,64 €. Et oui, les trimestriels ont été publiés hier soir après la clôture. Et franchement, ils sont très, très convaincants. Et alors, que dire de la hausse de 11,9% d'Eramet, qui est à 88,75 €, qui promet un retour au profit et qui a relevé l'ensemble de ses prévisions financières malgré quand même des difficultés. Sur le premier trimestre, le groupe se montre beaucoup plus confiant. Du côté des autres valeurs, tiens, ArcelorMittal qui gagne quasiment 2% à 24 €. Là aussi, on est bien lié aux matières premières. Des dossiers qui ont été un petit peu arbitrés de manière embrouillée tout au long de la semaine. Kering qui remonte de 2%, 333,90 €. En revanche, on a des sanctions avec les résultats d'Airbus. Le titre perd 2,38% à 154,74 €. On a Safran qui est arbitré à la baisse aussi après ses publications. Moins 1%, on est à 205,40 €. Eurofin Scientifique qui a souffert toute la semaine puis qui continue. Moins 1,8% à 56,44 €. La plus forte baisse du SBF 120, elle est pour Alten aussi avec les chiffres trimestriels qui ont été publiés. Ils sont pas bons et les investisseurs l'arbitrent à la baisse. Moins 6,2%, 120,90 €. Le CAC plus 0,37. On est à 8046 points. L'euro, 1,0737 $. Lorraine.
Merci beaucoup, Antoine. On vous retrouve dans quelques minutes dans le cadre de notre débat. Vous nous parlerez des plaques d'urticaire. des traders en ce moment. Ce serait sérieux. Vous nous rejoignez dans le talk dans quelques minutes. Restez connectés, Antoine. À tout de suite. Nous allons faire le point sur les actualités que vous avez besoin de maîtriser en ce vendredi matin. C'est François Monnier aux manettes du journal. Tout de suite.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Le directeur de la rédaction du magazine Investir est avec nous. Bonjour, cher François.
Bonjour, Lorraine.
Évidemment, avec vous, on fait le bilan ce vendredi matin de près de 50% des entreprises de notre CAC 40 qui ont publié. Que retenez-vous? Racontez-nous.
Oui, on a déjà maintenant une bonne visibilité sur l'état de santé de nos entreprises, que ce soit cette semaine avec un peu plus de la moitié qui ont publié, 21 exactement, et on avait déjà eu quelques publications au cours des semaines précédentes. Là, ce qui ressort, bien sûr, c'est qu'on est extrêmement rassuré, même s'il y a un petit peu moins de croissance, les sociétés sont capables toujours d'afficher une activité solide, elles sont capables de défendre les marges, et ça se mesure finalement avec des indices qui restent quand même à des niveaux assez élevés, puisque le CAC 40 reste au-dessus du fameux seuil symbolique des 8000 points. Donc très bonne résistance, des prévisions qui sont également là aussi rassurantes, ce qui fait dire que le deuxième trimestre pourrait être là aussi de bon augure. Donc encore une fois, les entreprises parviennent à surprendre agréablement la communauté financière, les analystes, les gérants. Donc ça, c'est la note positive. Après, là, ce qu'on voit, et c'est ce qu'on a pu voir depuis deux ou trois trimestres, c'est que maintenant, il y a clairement des vraies fractures au sein de chaque secteur, au sein de chaque thématique. On l'a vu dans le luxe, entre un Kering qui s'écroule et un LVMH qui continue de progresser. On le voit aussi dans le domaine de la santé, Eurofins scientifique, Sartorius Stedim, ne sont toujours pas remis finalement du Covid, et on a une petite remontée de Sanofi. On le voit aussi dans le domaine de la tech. Si Meta souffre, on voit que Microsoft rassure et on voit qu'il y a de l'appétit en tout cas pour des actions Alphabet. Donc on voit vraiment que dans chaque secteur, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis, vraiment il y a un vrai tri et on ne joue pas maintenant une thématique, on ne joue pas un secteur, on joue vraiment la bonne valeur. C'est vraiment une stratégie de ce qu'on appelle le stock picking dans le jargon des gérants, et on le voit même au sein des thématiques. Dans les thématiques liées, on va dire, en valeur value pas chère, défensive, finalement, on a des investisseurs qui vont plutôt sur la banque et qui vendent des télécoms. On a vu qu'Orange a subi des prises de bénéfices. Donc, on voit que vraiment, à tout niveau, on essaie de faire le tri. Et c'est ça qu'il faut vraiment retenir. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire on a une conviction sur un secteur. Il faut vraiment y aller valeur par valeur.
En stock picking, on va continuer à faire le bilan de cette semaine de publication. On reviendra sur Kering dans quelques minutes avec Mounir Laghoun. Mais avant ça, un petit mot de Bitcoin. Parce que depuis le halving, là, on n'en parle plus du tout. Ça fait une semaine.
On n'en parle plus parce que finalement, on a pas mal d'épargnants ou d'investisseurs. Je ne sais pas comment on peut les appeler. En tout cas, il y a quand même un Français sur 8 qui a du Bitcoin ou de la crypto-monnaie. Et ces épargnants sont un petit peu déçus parce que tout le monde se disait avec le halving, donc le fait qu'on allait produire deux fois moins de Bitcoin, on allait avoir une envolée des cours. Sauf que l'envolée des cours, on l'a eu un petit peu, et il faut voir un petit peu quels sont les catalyseurs aujourd'hui sur la crypto-monnaie et sur le Bitcoin. Tous les voyants sont au vert, sauf un. Les voyants qui sont au vert, c'est que la crypto-monnaie et le Bitcoin arrivent à créer de la valeur lorsqu'il y a une défiance sur le système.
Oui.
La défiance est toujours là, on voit les endettements, on voit la dette publique en France, 3100 milliards, on se dit, oui, il y a quand même un souci. Donc ça, c'est un terreau extrêmement favorable au Bitcoin. Autre terreau qui est favorable, le fait qu'on puisse en acheter plus facilement. Depuis l'arrivée des ETF aux États-Unis et bientôt à Londres, il est plus facile de se procurer de la crypto-monnaie sans se créer un wallet, un portefeuille digital. Ça, c'est et puis maintenant, le système crée de la rareté puisque le Bitcoin, comme vous le savez, à intervalles réguliers, réduit sa production de monnaie numérique par deux. C'était le cas le 21 avril. Et là, on se dit, finalement, ça monte. Pourquoi ça monte pas? Ça monte pas parce que la donne, c'est le dernier voyant, il n'est pas du tout au vert, il est peut-être à l'orange, il va peut-être passer au rouge. C'est le fait qu'il n'y a pas de baisse des taux attendue de la Banque Centrale Américaine en juin.
Mmh.
Et il y a une vraie corrélation entre les taux d'intérêt, notamment aux États-Unis, et les cours du Bitcoin. Quand les taux d'intérêt ont eu tendance à monter, quand la Banque Centrale a durci sa politique monétaire, on a vu qu'il y avait une pression baissière sur le Bitcoin.
Oui.
Et tout le monde s'est dit, maintenant on rentre dans une nouvelle stratégie de politique monétaire avec des baisses de taux attendues. Tout de suite, ça a donné une bouffée d'oxygène depuis cet automne sur le Bitcoin. Et là, on se dit finalement, l'inflation, elle est toujours là. Elle montre vraiment des signes de résistance. Et le combat, il risque de durer un peu plus longtemps. Et donc, résultat, les cours du Bitcoin soit en mode pause et tout le monde attend la baisse des taux de la Fed.
Voilà, quel avenir si la Fed ne baisse pas ses taux? En tout cas, à l'heure où on se parle, 10h15 ce matin, le Bitcoin se négocie autour de 64 389 dollars. Le Bitcoin et les publications, nous allons en reparler dans quelques minutes avec Mounir Lagoun de Finari et puis Antoine Larigaudry depuis Euronext. Merci François, restez avec nous, on passe une tête chez nos traders pour faire le point sur cette semaine et puis sur la sale journée sur les marchés hier.
Tout pour investir, le match des traders.
Ce matin, Jean-Louis Cussac est avec nous, Perceval Finance Conseil, pour finir la semaine. Le lundi et le vendredi, c'est Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Nous sommes Bonjour. Également avec Dorian Abadi de Meilleurs Taux. Dorian, on va démarrer avec vous si vous voulez bien. On a vécu une sale journée sur les marchés hier. Il y a pas mal de publications, tant au niveau macro qu'entreprise. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Quels sont les niveaux techniques que vous allez surveiller et que vous pouvez partager avec nos auditeurs, Dorian?
Oui, bonjour à tous. Ben, effectivement, c'est une séance importante qui commence. Alors, on a surtout les résistances un peu symboliques autour des 8100, 8150 points et par extension les 8220 points qui pourraient être testés à nouveau. Alors, dans les prochaines heures, surtout les prochaines séances en début de semaine prochaine. Au niveau des supports, en cas de prise de bénéfices, et puis tout simplement, c'est vrai qu'on a beaucoup de détachements de dividendes en ce moment, ce sont à nouveau des niveaux assez symboliques que l'on surveille, notamment sur les 8000 points. Il faut se dire que, sur la semaine, malgré toutes les secousses qu'il y a eu, on est globalement sur un petit gain hebdomadaire de 0,25%. Le CAC n'est finalement qu'à 2,5% de son record historique. Donc on reste sur des niveaux assez élevés. Et surtout, voilà, c'est une séance cruciale qui clôture un petit peu cette semaine avec l'examen de la dette française par les agences internationales. Et puis on aura surtout les deux grands leviers boursiers du moment avec l'inflation américaine d'un côté à 14h30, à quelques jours de la prochaine réunion de la Fed, mardi et mercredi. Et puis de l'autre côté, ce sera autour de plusieurs majors pétrolières de passer sur le grill des résultats. Côté américain, on a surtout Chevron et Exxon et côté français Total, bien sûr, pour représenter voilà, le secteur pétrolier français.
Jean-Louis, vous allez suivre attentivement les mêmes publications et comment vous allez conclure cette semaine ?
D'une manière plutôt positive, parce que en achetant systématiquement, on finit par retrouver ses prix. Non, mais je dis ça un peu par provocation, mais les achats d'hier, éventuellement un peu trop rapides, il a fallu patienter un petit peu, mais on a fini par remonter. Et ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti point haut, c'est-à-dire on a fait ce matin les objectifs qu'on avait de rebond d'hier, d'une manière un peu incroyable. Ensuite, le marché a baissé, et il a baissé, et il a encore baissé. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe? 60 points de baisse, ça prouve quoi? Qu'il y a beaucoup d'effets boutonniers, que tout simplement, aux États-Unis, il y a des bonnes nouvelles sur deux sociétés. Tout d'un coup, le SP500 prend 40-50 points. Derrière, on suit de loin, mais on suit sans conviction. On décale des prix, et là, ce matin, il y a énormément, évidemment, de réactions. Mais vous l'avez déjà signalé, aux résultats de société. Mmh. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon. Alors, quand c'est décevant, avant c'était moins 3, maintenant c'est moins 9. Quand c'est pas bon, au lieu de moins 9, maintenant c'est moins 30. Bon, ça fait un bout de temps que ça dure. Donc voilà, on a toujours des surinterprétations. On a des marchés qui vraiment sont... tout le monde va dans le même sens au même moment. On reste acheteur sur des replis. Tant qu'on est au-dessus de 7815 futurs mai, on continue. C'est la période des dividendes. Donc faites attention, le cash, comme aujourd'hui, L'Oréal impacte le cash de 6,6 à peu près. Donc les baisses ou les mouvements sont un peu amputés de ces distributions de dividendes. La prochaine, ça sera donc lundi prochain, et on y reviendra d'ici là, puisque je serai avec vous. Mais faites attention à ça, voilà. Et 7815, c'est le point à surveiller sur le futur. Il y a 43 points d'écart entre le futur et le cash.
Merci beaucoup, Jean-Louis. On fera le point lundi avec vous, Jean-Louis. Cher Dorian, merci pour votre agenda. Est-ce que vous allez surveiller cette séquence? C'est à retrouver comme l'ensemble de nos séquences sur notre plateforme, bfmbusiness.fr. Je vous précise que la journée a débuté avec la confiance des consommateurs. En France, plus tard, aux États-Unis, nous aurons l'inflation PCE, le revenu personnel et la consommation des ménages, ce sera vers 14h30. Et puis, le sentiment de l'Université du Michigan, vers 16h, ce sera à suivre, évidemment, avec l'équipe BFM Bourse, Guillaume Sommerer, Julie Cohen et toute l'équipe du site BFM Bourse en direct sur notre antenne. Nous allons continuer à discuter des actualités qui vous concernent en tant qu'investisseur particulier avec l'équipe du vendredi.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
Le directeur de la rédaction d'Investir est toujours parmi nous. Rebonjour, cher François.
Rebonjour.
Nous sommes rejoints, ça fait un bail, par Mounir Laghoun. Bonjour Mounir.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le cofondateur de Finari et Antoine Larigaudry depuis Euronext. Toujours connecté parce que nous allons continuer le bilan des publications de la semaine. Antoine, on va démarrer avec vous. Vous êtes assez positif, vous nous dites des super chiffres dans l'ensemble, mais, confirmation quand même d'une certaine stagnation des chiffres d'affaires et des perspectives pas florissantes, notamment sur les secteurs normalement de croissance. Racontez-nous.
Oui, bah c'est un peu le syndrome Pitous. Hein. J'avais découvert ça avec Alain Pitous la dernière fois qu'il était venu et qu'on avait discuté. Il y a quand même une tendance qui se dégage. C'est vrai qu'on a des sociétés qui sont au top de leur rentabilité. On a encore BNP Paribas, rien qu'hier, qui signe des profits records sur un trimestre. On a des entreprises qui sont très bien structurées, qui dégagent un maximum de profits, donc dont la structure est vraiment faite pour faire de la croissance en bourse. Maintenant, il y a quelque chose qui pose un véritable problème, c'est la stagnation des chiffres d'affaires, voire même leur recul dans certains cas. Et certains secteurs où il va falloir se faire un marché extrêmement volatile et dont les tendances vont devoir s'affirmer dans les mois à venir avant de prendre une véritable vitesse de croisière. Et j'en veux pour preuve quand même les perspectives du côté d'ST Micro, parce qu'on se dit comme ça, là, à la va-vite, semi-conducteur, mais c'est de la croissance à ne plus savoir qu'en faire pour les années à venir. Ben oui, mais il y a des chaos de marché, il y a des secteurs qui se grippent, l'automobile hein, du côté de chez ST Micro qui s'en plaint un petit peu. Alors on a des chiffres de qualité, mais du coup des perspectives sans doute un petit peu prudentes. C'est passé un peu à l'as hier aussi avec les performances mirobolantes de Microsoft, de Google, de Snap même, qui ont étonné. Mais alors on a eu des résultats pour le coup vraiment décevants de la part d'Intel. Liés aussi, il faut bien le dire, quand un secteur commence à stagner ou quand on a besoin véritablement de dynamiser notre activité sur un secteur en particulier, ben qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire des dépenses. Il faut faire des dépenses de marketing, il faut faire des dépenses commerciales. Ça s'appelle CAPEX. CAPEX. Vous vous souvenez, c'est ce qui avait véritablement mis le feu aux poudres concernant les résultats de Meta. Meta qui a besoin d'énormément investir du côté de l'intelligence artificielle et ça rogne sur sa trésorerie et sur un certain nombre d'autres paramètres comptables. Et ce mot CAPEX, ben, il commence à mettre des boutons effectivement aux traders américains, vous me le disiez tout à l'heure en jouant les dermatos, mais oui, ça met de l'urticaire parce que dans cette période d'incertitude au niveau des taux, au niveau des dynamiques de croissance dans certains secteurs et des perspectives de croissance qu'on estimait totalement infinies encore il y a quelques mois, on n'avait qu'à regarder la progression d'NVIDIA, c'était absolument spectaculaire. Ben oui, ça ne va pas se faire sans mal. Et effectivement, il y a des ajustements à prévoir sur les cours de bourse des sociétés concernées. Donc, dans l'ensemble, ça reste quand même des performances spectaculaires. Mais en demi-teinte, si on regarde un petit peu plus loin dans l'avenir, en tout cas.
François, Intel perdait 8% hier hors séance après ses comptes. Au contraire, Alphabet flambait de 11%. Alphabet, d'ailleurs, qui versait un dividende. On n'en a pas parlé depuis le début de l'émission.
Exactement. Alphabet qui distribue des dividendes, qui rachète des actions. Mais c'est vrai que la bourse, en fait, elle aime les capex, pour rebondir sur ce que vient de dire Antoine, mais elle aime les capex qui sont argumentés et qui peuvent générer des gains. Les investissements massifs de Meta, c'est vrai, ont fait dérailler le titre hier, mais parce que Meta nous a déjà joué le coup avec « je vais investir énormément dans le métaverse ».
Oui.
On n'a pas vu de retour sur investissement. Et là, il nous dit « je vais investir maintenant massivement dans l'IA ». Donc évidemment, ça jette un petit peu le trouble, alors que Amazon et Jeff Bezos a un discours totalement opposé à celui de Mark Zuckerberg, qui est de dire, bah, moi, j'ai pas été rentable pendant 20 ans, mais regardez comment je construis mon empire.
Oui.
Et là, les investisseurs ont été capables de patienter pendant 20 ans. Donc la bourse peut être très patiente, mais il faut quand même qu'il y ait quelques arguments chiffrés. Donc il faut, voilà, tout ça, ça appelle un petit peu de raison. Après, ce qu'on voit, c'est que c'est rassurant, mais le marché respire. Et puis surtout, il faut faire attention quand on a des investisseurs qui ont des méga convictions. La méga conviction que la voiture électrique, ça allait être tout de suite maintenant, ben évidemment, on voit qu'il y a un véritable trou d'air. Il se vend, enfin, les ventes ont été mauvaises chez Tesla, sont mauvaises aussi chez Volkswagen. On voit que, voilà, une voiture électrique, d'accord, mais il faut du pouvoir d'achat. Les consommateurs n'ont pas forcément le pouvoir d'achat. Il y a une concurrence qui s'intensifie. Donc, tracer sous une fiche Excel, voilà, la croissance, elle est garantie régulière, c'est jamais le cas. Il y aura des à-coups aussi dans le domaine de l'IA. Là, on est tout feu, tout flamme sur l'IA, mais on voit que de temps en temps, bah, voilà, Nvidia, c'est un titre aussi qui a besoin de respirer. Donc, on est sur des marchés en croissance, mais ça se fait jamais en ligne droite. Et donc, mais il y a toujours des opportunités. On l'a vu dans la transition énergétique. Les Saint-Gobain, c'est deux fois centenaire, fait une croissance de 6% de son cours de bourse ce matin. Donc, comme une valeur tech américaine. Donc, on voit que la transition Schneider Electric a rassuré également. Donc, voilà, il y a des secteurs qui sont toujours porteurs. Mais voilà, ça tourne, il y a une rotation et c'est tout à fait normal.
Vous nous parliez du retour du stock picking, François. Mounir, est-ce que vous avez des convictions sur des secteurs ou vous fonctionnez aussi en stock picking?
Alors moi, je fais très peu de stock picking. Je pense que la règle qui est bien de se donner, c'est qu'on fait 80% de passifs et 20% de stock picking pour quand même un peu s'amuser. Et là, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le marché, finalement, c'est un instrument qui donne un prix, mais c'est pas pour autant qu'il faut aller écouter, comme l'appelait Warren Buffett, Mr. Market, il faut aller le prendre. Donc Alphabet, que ça monte, que ça baisse, ça reste quand même un business incroyable qui, depuis 20 ans, délivre une performance. On appelle, enfin, les détracteurs de Google parlent de six blue links, en gros, six liens, c'est ça le business malgré tout, mais ils se sont tellement transformés. Je pense que Meta aussi a quand même montré, avec quand même à sa tête le fondateur, c'est quand même assez étonnant. C'est la personne qui a monté l'entreprise dans sa chambre à Harvard qui mène encore la bataille. Alors je pense qu'il s'est bien raté sur le métaverse, mais je pense qu'il ne se rattrape pas sur l'IA. Donc que les prix montent ou baissent, finalement, peu importe, ce qui compte, c'est les fondamentaux. Et moi, j'aime bien avoir du CAPEX parce qu'en fait, ça me rassure. Une entreprise qui distribue du dividende ou qui rachète ses actions, finalement, c'est qu'elle ne sait pas quoi en faire. Une entreprise qui investit comme Amazon, eh ben, elle crée un champion national, continental et puis international.
Facebook, création en 2024. Facebook va avoir 20 ans, ce qui ne nous rajeunit pas. La parole des fondateurs n'est pas toujours d'or. On a l'impression que la parole d'Elon Musk, elle a un petit côté Midas. Quand il parle, il arrive à retourner les esprits. Quand on entend Mark Zuckerberg qui justifie son CAPEX et ses investissements dans l'IA, le marché doute plus. Ce rôle des fondateurs, peut-être pour conclure cette discussion, dans la gouvernance et dans l'impulsion qu'ils peuvent donner à leur entreprise, dans le chantier qui est la transition IA. François, comment vous la regardez?
C'est vrai qu'Elon Musk, c'est un excellent orateur et surtout il a le sens du timing. Là, en ce moment, le vrai sujet, c'est il a quand même un titre qui a perdu près de 40% depuis le début de l'année. Des interrogations sur le fait qu'il est obligé de baisser des prix et ça bouleverse tout le modèle économique. Et là, il raconte une nouvelle histoire, une nouvelle equity story qui est plus de dire je vais essayer de vendre plus de voitures électriques à un meilleur prix dans telle ou telle zone. Il raconte maintenant la nouvelle histoire, c'est la voiture autonome avec des taxis. Et ça, parce qu'il a analysé des milliers, des milliards de données et maintenant, il estime qu'il va pouvoir être au point. Il ne donne pas de date extrêmement précise et le nombre de véhicules qu'il va pouvoir commercialiser de façon autonome, mais c'est une nouvelle histoire. Et c'est vrai qu'il a derrière, ce qu'on regarde, c'est son track record, son historique. Oui, il a été capable de lancer des fusées. Oui, il est arrivé à bouleverser le monde de l'automobile alors qu'on disait que ce n'était pas possible, notamment aux États-Unis où vous avez General Motors, Ford et Chrysler. Et lui, il arrive, il casse tout, il a réussi. Et là, on se dit, si jamais il réussit la voiture autonome et il explique que ce sera finalement comme prendre un ascenseur, eh bien là, on se dit, oui, c'est à nouveau une disruption. Est-ce qu'il va être capable? En tout cas, oralement, il met beaucoup de l'énergie et il arrive à persuader quand même pas mal d'investisseurs.
Mounir, le mot de la fin, peut-être sur l'état d'esprit dans lequel nous, investisseurs particuliers, nous devons être dans cette semaine de publication, cette période de publication.
Je pense qu'il faut être aux aguets. Si on fait du stock picking, clairement, c'est maintenant que ça va se passer. Si on est investisseur passif, peu importe, on continue d'investir régulièrement. Et pour revenir sur ce que disait François, je pense que c'est extrêmement important d'investir effectivement dans des fondamentaux solides, mais aussi dans un leader, enfin une femme ou un homme qui a vraiment une vision. Et on ne peut pas reprocher à Elon Musk de ne pas avoir de vision. Il s'est quand même bien raté. Il nous a dit qu'à un moment, il voulait faire des tunnels. Il y a un tunnel qui existe dans le monde. Et en plus, il y a des embouteillages dans son tunnel. Donc, c'était quand même assez drôle de voir ça. Il a aussi complètement raté son achat de Twitter, qui est devenu X, qui est vraiment un bourbier absolu. Mais en parallèle, comme l'a dit François, il a révolutionné une industrie. Il a créé un constructeur automobile de rien. On disait que c'était impossible. Il l'a fait. Et je pense que si vous aviez été actionnaire de Tesla il y a 5 ans, vous êtes très content, même avec la forte baisse qu'il y a aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il va réussir à rebondir ? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a une capacité à convaincre les investisseurs qui est fabuleuse, et il sait raconter des belles histoires, et de temps en temps, elles se réalisent, et quand ça marche, bah, ça se vérifie en bourse.
The Loop, le tunnel douteux, absurde d'Elon Musk, voilà. Exactement. Comment il s'appelait. Antoine, le dernier mot pour vous, on parle de vision et d'entrepreneurs qui arrivent à raconter des equity stories ou des stories tout court. Nous allons parler avec vous à 11h de Jack Dorsey, le vrai fondateur de X, enfin X Twitter pardon originellement, qui est le nouveau parrain de l'industrie crypto et qui veut défier Nvidia. En deux, trois mots là, racontez-nous le résumé de votre histoire.
En gros, il est en train de vouloir réduire la Nvidia dépendance de l'industrie crypto, parce qu'on en parle beaucoup en tant qu'artisan et machine-outil de l'intelligence artificielle, ces fameuses cartes graphiques Nvidia. Ben, c'est aussi la cheville ouvrière de toute l'industrie crypto. Et là, Jack Dorsey, en fait, via sa société Block, qui est spécialisée dans le paiement et dans la technologie blockchain, veut créer du hardware, à savoir des systèmes de semi-conducteurs, des architectures de semi-conducteurs spécialisées dans le minage. Et oui, je vous en dirai plus, c'est assez passionnant cette histoire.
Block, B-L-C-K. À tout à l'heure, Antoine. Merci beaucoup, François Monnier. Qu'est-ce qu'on lit à la Une d'Investir ?
Eh ben, on fait un grand bilan, bien sûr, des publications. On analyse, bien sûr, toutes ces entreprises. Et puis, bien sûr, nous, on va aux assemblées générales. Donc, on raconte ce qui se passe lorsque les patrons prennent la parole et échangent avec leurs actionnaires.
La vision et la parole des patrons sur Finari. Une vidéo à retrouver sur YouTube ou un contenu Mounir dont on peut parler pour conclure.
Écoutez, je viens de recevoir Romain Burnand, qui est le fondateur de Moneta. Il gère 4 milliards d'euros. Et il affiche une performance de 14,9% par an depuis 20 ans sur son fonds Moneta Microcap. Alors, j'ai pas de part dans le fonds, mais ça reste une discussion passionnante puisqu'on est vraiment allé dans le portefeuille. Il nous a expliqué pourquoi il achetait certaines valeurs et pourquoi il en vendait d'autres. Et Romain aussi dit que lui, quand ça commence à applaudir, généralement, il vend parce qu'il sent que le vent va tourner.
Voilà, à retrouver sur Finari, les experts du vendredi pour décrypter les actus. Ça continue juste après la pub. Nicolas Dose sera là pour nous parler de notre note, la note française. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter de cette note ou plutôt de la tendance, la descente dans laquelle nous sommes? À tout de suite, et à tout de suite Antoine aussi, qui continuera à être avec nous dans Tout pour investir. Antoine Arrigoré, Euronext.
Tout pour investir, dose d'économie.
L'élève France appelé au tableau. Bonjour Nicolas Dose.
Bonjour.
Verdict ce soir.
C'était pas mal comme titre, je trouvais pas le bon titre. Là, l'élève France appelé au tableau, c'est pas mal.
Verdict ce soir, après la clôture de la bourse, vous le savez, deux des trois grandes agences de notation vont trancher sur la note souveraine de notre beau pays. Le risque de la dégradation de cette note est-il réel selon vous, cher Nicolas ?
Ah oui, il est bien réel le risque. Il est bien réel parce que la dégradation de nos finances publiques, elle est franche. Et elle est brutale. Il n'y a pas de règle. Enfin, normalement, traditionnellement, quand vous avez un ratio de dette sur PIB qui s'est dégradé de plus de 10 points entre la précédente dégradation et le moment où l'on parle, vous avez de grandes chances d'être dégradé. Il se trouve que 2019-2023, notre ratio de dette sur PIB, il ne s'est pas dégradé de 10 points, mais de 13 points. Mais bon, il n'y a pas de règle, ok ? Maintenant, oui, le risque est réel. Pourquoi ? Le déficit public est nettement supérieur à ce qui était prévu en 2023. Nettement, hein ? On est parti de 4,9 prévu, on arrive à 5,5. La croissance est nettement plus faible que ce qui était espéré cette année en 2024. On est parti à 1,4, on a ramené à 1, et le 1 est encore largement au-dessus des prévisions globales de l'ensemble des instituts qui sont plutôt autour de 0,7%. Elle est réelle parce que notre dette, effectivement, dépasse 110% du PIB. Il y a un pays d'Europe qui fait pire que nous, qui s'appelle l'Italie. On a souvent tendance à se comparer à l'Allemagne. Vous prenez l'Allemagne, la France. Nous, on est en train d'aller vers le haut, ou en tout cas d'avoir du mal à baisser. L'Allemagne se rapproche des fameux 60% inscrits dans les traités historiques. Donc, jamais l'écart entre la France et les bons élèves de l'Europe n'a été aussi important. Que des choses qui sont des révisions de déficit aussi fortes, des révisions de croissance aussi fortes, c'est rare. Un écart qui se creuse entre les frugaux et les non-frugaux, c'est rare aussi. Et après, l'annonce d'un décret à 10 milliards. Plus 10 milliards supplémentaires qui viennent et qui n'étaient pas attendus. Ça montre bien qu'effectivement, il y a une forme d'urgence, il y a une forme de dégradation brutale, je le disais, et probablement un sentiment d'urgence qui s'est emparé de Bercy. Jamais, hein, on a vu, à peine l'hiver terminé, 20 milliards de coupes budgétaires qui tombent du ciel comme ça. Alors, Gabriel Attal dit « Regardez comme on est sérieux ». Moi, je dis « Regardez comme ça flippe à Bercy ». On a chacun sa lecture. Donc oui, effectivement, le risque est réel de dégradation.
Nicolas, est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe de ces agences de notation?
C'est important de rappeler qu'effectivement, tous les 6 mois, les agences vont donner leur avis sur la solvabilité d'un État, la note de dette souveraine, la capacité de l'État à rembourser sa dette. Un point très important, autant les agences de notation, quand elles notent des établissements, enfin des entreprises, elles sont rémunérées pour le faire, elles ne sont pas rémunérées pour se prononcer sur les États. Et donc, elles délient. Il y a deux critères. Il y a la note, entre 20 et 22, 23 notes par grille. Elles n'ont pas toutes exactement la même grille de notes, mais c'est une grosse vingtaine de notes. Et puis, il y a la recommandation, la perspective qui accompagne la note, qui peut être stable, qui peut être négative ou qui peut être positive. Si vous voulez, dit très simplement, les agences de notation sont un peu aux États ce que le guide Michelin est à la restauration. Et donc, ce soir, deux des trois, Fitch et Moody's, vont se prononcer. Le 31 mai, on aura l'avis de celle qui est la plus écoutée. C'est Standard & Poor's.
Standard réponse la plus écoutée. Écoutez, bon, très concrètement, mettons-nous du point de vue du business, de la vraie économie. Qu'est-ce qui va se passer très concrètement si la France, eh bien, a sa note souveraine dégradée? Est-ce que c'est grave?
Dans les jours qui viennent, même les mois qui viennent, il ne va absolument rien se passer. On n'aura aucun problème particulier pour placer notre dette et on ne va pas vivre une explosion totale des taux d'emprunt. S'il devait y avoir une explosion totale des taux d'emprunt de la France, des taux souverains, on aurait déjà commencé à l'avoir. On n'a pas du tout vu un écart s'installer entre l'OAT française et le Bund allemand. En fait, qu'est-ce qui se passe? La France aujourd'hui, elle est notée 17-18 sur 20. Si on est dégradé, on sera noté 16 sur 20. Ça reste quand même le club des pays les plus sûrs. Le problème de l'histoire, c'est que le mouvement de déclin, il est engagé maintenant depuis 2012, quand on perd le triple A, mais il est inexorablement orienté vers le bas. On n'a aucune perspective de moyen terme, même de long terme, qui nous permettrait d'imaginer qu'on verrait cette note révisée à la hausse, contrairement à ce que la Grèce a vécu. Je rentre un tout petit peu dans le détail. J'ai regardé chez Moody's. Vous avez 4 niveaux très bons. Le triple A, ok. Derrière le triple A, vous avez 3 notes. A1, enfin double A1, double A2, double A3. Maintenant, on est double A2. Donc, on est au 3e niveau des 4 niveaux des bons élèves. Ensuite, vous avez 3 niveaux où vous êtes acceptable. Ça va. C'est les niveaux des 3 échelons commençant par une seule lettre A et pas un double A. Puis après, vous rentrez dans la catégorie des notes B. Ah, c'est là où ça se gâte un peu. Et puis, si vous arrivez dans la catégorie des notes C, là, ça sent le sapin. Et là, c'est pareil, vous avez plusieurs C, puis quand vous avez la note C tout seul, un gros C, ça s'appelle le défaut. Alors évidemment, on n'en est absolument pas là. Mais encore une fois, chaque dégradation, c'est toujours vers le bas. Et on n'a absolument aucune perspective pour que les choses s'inversent. 2024, on signe notre 50e budget dans le rouge. 50 ans. Et on a des présidents de la République qui ont tous promis la réforme de l'État, et aucun qui ne l'a engagé, et aucun qui ne l'a mené. Donc voilà, on a une dette souveraine qui ne reprendra pas de sitôt le chemin du double A1, voire du triple A. Et on est vraiment dans l'histoire du gars qui tombe du 20e étage et qui, au 16e étage, se dit, pour l'instant, tout va bien.
50 ans dans le rouge. Voilà le problème, Nicolas, on vous entend. C'est pas d'avoir une note dégradée, c'est d'être dans la pente descendante depuis toutes ces années.
Bon, après, il y a la question d'image et les conséquences politiques qui existent aussi en cas de dégradation. Je me demandais si on serait dégradé, je pensais pas trop. Et puis ce matin, tous mes invités autour de la table ont pensé que si.
Bon, à voir lundi.
Ben, ce soir.
Bilan lundi, ouais, avec vous, et ce soir, évidemment, pour ceux et celles qui s'informeront sans vous. Merci, Nicolas. Cette séquence sera retrouvée en podcast et en replay, vous le savez, sur notre site et l'application BFM Business, mais également sur YouTube. Vous participez également à la discussion sur la chaîne YouTube de BFM Business. À suivre, on continue à s'occuper de votre portefeuille. On va zoomer sur le secteur du luxe et se demander concrètement quels enseignements tirer pour nos portefeuilles à nous, d'investisseurs particuliers. Bonjour Alexandre Aizé, vous êtes le Chief Investment Officer chez Richelieu avec nous ce matin pour parler résultats bien sûr, mais pour zoomer en particulier sur un secteur qui nous est cher, qui pèse lourd sur notre cote, dans notre bourse nationale, nous allons zoomer sur le luxe. On va revenir sur les fondamentaux du secteur et puis se demander pour nous investisseurs particuliers, comment est-ce que fait le luxe? nous concerne très directement. Alors d'abord, peut-être votre sentiment par rapport aux dernières publications. Est-ce qu'il faut retenir pour ceux et celles qui nous écoutent ?
Alors c'est vrai que dans les dernières publications, on voit clairement qu'il y a un ralentissement global des dépenses, hein, avec des États-Unis qui fonctionnaient très très bien, avec évidemment un consommateur qui était très résilient. Et puis là, on commence à voir en Europe un peu de mieux, et en Asie, alors là, c'est assez contrasté au niveau des fondamentaux. Et ce qui est très important quand on regarde le secteur du luxe, en fait, c'est un secteur qui est très très hétérogène. Et ce que on a eu quasiment la plupart des entreprises qui ont publié, hein, il manque Richemont en Suisse, mais on a eu quand même pas mal de déceptions sur des grands noms, hein, et des grands noms de la cote, hein, évidemment, ça nous intéresse parce que dans le CAC 40, c'est des vrais poids et c'est pas forcément des entreprises qui sont liées à l'économie française, hein, donc c'est vraiment un peu comme à l'image de ce que l'on a sur la technologie aux États-Unis. Et c'est vrai qu'on a des sociétés qui ont fortement déçu, hein, comme Kering, notamment sur sa marque Gucci en Asie. LVMH a été beaucoup plus morose, et puis vous avez certaines stars, Hermès, qui a plus de 18% de croissance séquentielle, avec une dynamique sur les prix qui a montré une très très forte accélération. Et donc, avec ce paysage-là, ce que on s'aperçoit quoi ? On s'aperçoit que vraiment les très grandes marques, les marques premium, c'est-à-dire que le luxe est en train encore de se luxifier, où vous avez des capacités d'augmentation de prix qui sont presque inconnues, comme Hermès ou d'une certaine manière Moncler. Eh bien là, vous avez une capacité encore à faire de la croissance, même si l'économie est de plus en plus morose.
On a beaucoup parlé d'Hermès évidemment cette semaine. C'est vrai que le pricing power d'entreprises et de marques comme Moncler, Prada, mais aussi Bruno Cucinelli, si je prononce ça correctement, est impressionnant. On n'en parle pas autant qu'Hermès. Évidemment, ces groupes n'ont pas l'envergure d'Hermès, mais vous, en tant qu'investisseur, vous regardez ça de près.
On regarde ça de près parce que les marques de luxe ont effectivement surperformé la cote pendant plusieurs années, dans une économie qui était post-Covid en forte croissance, avec énormément d'épargne qui se déversait sur la consommation. Là, on est un peu près on est quand même dans une situation bien différente. L'inflation est encore là, donc il faut regarder les entreprises qui ont ce fameux pricing power et cette capacité à maintenir, voire à augmenter les marges. Et en même temps, la consommation n'est plus ce qu'elle l'était. On voit très bien ce qui est en train de se passer au niveau macroéconomique. Donc il faut vraiment se focaliser sur des marques qui ont cette capacité forte à engranger, effectivement, à recréer de la dynamique de prix.
On a beaucoup déploré les résultats de Kering plombés, ancrés par les difficultés de Gucci. Mais à l'intérieur de Kering, il y a une lumière au bout du tunnel, ou en tout cas un voyant vert, c'est la joaillerie.
Bah, la joaillerie marche très bien parce que effectivement c'est de l'ultra luxe. On voit à peu près sur toutes les marques que la joaillerie se comporte bien.
Rappelez-nous les marques de joaillerie qu'il y a dans le groupe Kering.
Ah bah, des marques de joaillerie, vous avez par exemple, Boucheron, pardon.
Excusez-moi,
oui, voilà, exactement, Boucheron. J'ai un trou de mémoire.
Vous portez peut-être moins de Boucheron.
Exactement. et c'est vrai que c'est un segment du luxe qui fonctionne très très bien. À l'inverse, par exemple, l'horlogerie fonctionne très 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 mal, hein, notamment, bah, on le verra avec Richemont, avec Cartier ou Van Cleef & Arpels. Mais ça c'est une stratégie
qui fonctionne. Les montres, ça va mal parce que les stocks grossissent.
Les stocks grossissent, les spiritueux aussi, hein, fonctionnent pas très très bien. Donc la maroquinerie, effectivement, la joaillerie sont des secteurs en forte croissance où là, on est quand même sur des niveaux de prix qui restent extrêmement élevés.
Bon, on va toucher un tout petit mot de tout ça, comment ça se concrétise côté marché. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'on est quand même dans un contexte inflationniste. Les acteurs du luxe, ils ont quand même bénéficié, bon, de la hausse des prix, ça, bien ils sûr. Ont surfé à fond dessus. Et puis, la hausse les consommateurs ont envie d'aller dans les boutiques, les canaux directs, ça soutient quand même leur croissance.
Et exactement, là de plus en plus, le luxe, c'est quand même cette interaction avec le client. On le voit à l'instar de ce qui peut se passer pour d'autres méthodes de consommation sur Internet. Là, on arrive à capter des clients en direct. Et puis, je voulais dire, sur le luxe, il y a juste quelque chose dont il faut se rappeler, c'est-à-dire que depuis la crise de Covid, la richesse a augmenté, mais les très riches sont devenus encore plus riches. Mmh. Sur les 147 000 milliards de richesse du consommateur américain, on a à peu près, depuis 4 ans, 40 000 milliards de plus de richesse. Il y a à peu près 133 000 Américains qui ont capté plus du tiers de cette richesse. Donc en fait, ce déséquilibre en fait va en faveur de l'ultra-luxe sur cette consommation.
Bon, en tant qu'investisseur particulier, quels sont vos conseils pour conclure? François Monnier d'Investir, en début d'émission, nous disait là, c'est plus le moment de surfer des tendances, c'est le moment d'être en stock picking à l'intérieur des secteurs, on va choisir ses valeurs. Comment on applique ça au secteur du luxe, si vous êtes d'accord, Alexandre?
Tout à fait, on est passé de vision thématique sectorielle, et là on voit bien, on a vu les résultats entre Kering, Hermès, LVMH, Moncler, des fortes différenciations à l'intérieur des secteurs, comme ce qui peut se passer sur les 7 magnifiques par exemple, et exactement, on a exactement la même dynamique aux États-Unis, et il faut aller sur on continue à aller sur les valeurs qui délivrent de la croissance et qui ont une capacité, encore une fois, de monter les prix. Et ce sont des valeurs long terme. Alors, à la différence de ce qu'on pouvait avoir en 2022 notamment ou en 2023, ce sont des valeurs qui vont être moins décorrélées par rapport au marché, à la tendance de marché, parce que c'est des gros poids dans les entreprises. C'est quand même lié de plus en plus à la croissance mondiale. Elles ont fait leur gras sur les marges. Et donc, profiter des à-coups de marché qui, de toute manière, emmèneront ces valeurs à la baisse, alors même que les fondamentaux sont excellents, pour se repositionner dessus et garder en fond de portefeuille des valeurs comme effectivement Hermès qui délivrera dans le futur.
Si les marchés baissent, soyez patients en gros. Elles vont aussi suivre la baisse, mais finalement ce sera peut-être autant de points d'entrée ou de repositionnement sur certaines de ces valeurs. Voilà la parole d'Alexandre Aizé de l'équipe Richelieu avec nous ce vendredi au décryptage du secteur du luxe. On aurait pu parler du luxe d'occasion aussi qui s'installe, qui va être un des sous-jacents sans doute de la croissance future de ces entreprises. Merci beaucoup Alexandre et toute l'équipe de Richelieu. Séquence à retrouver en podcast et en replay sur l'application BFM Business. Et puis je vous précise que ce secteur du luxe fera sans doute l'objet de décryptage également dans BFM Bourse avec Guillaume Sommerer dès 15h30 aujourd'hui, mais dans l'ensemble tous les jours. Vous restez avec nous, on va vous coacher ce matin, on va parler de votre retraite, de votre retraite, de votre épargne et encore plus de votre déclaration d'impôt. Oui, ce qu'il faut avoir en tête quand vous allez déclarer vos PEE, PERCO, PER. C'est maintenant la déclaration d'impôt. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business.
C'est Tout pour investir qui continue. On s'occupe de vous, on vous coach tous les jours et en particulier dans cette période fiscale intense qui vous concerne depuis le 11 avril puisque vous êtes censé déclarer vos revenus de l'année dernière. On parle souvent d'épargne salariale et d'épargne tout court pour la retraite dans cette émission. Notre monsieur épargne salariale est avec nous. Bonjour Benjamin Pedrini.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le cofondateur d'Epsor. On va faire le point sur les trucs qu'il ne faut pas oublier dans nos déclarations d'impôts avec vous quand on a un PER, un PE, un PERCO, bref, quand on épargne pour sa retraite. D'abord, votre regard sur cette déclaration 2024 de plus en plus digitale, presque automatisée, mais qui toujours a ses petits pièges.
Qui est toujours à ces petits pièges et qu'il faut quand même toujours bien penser à vérifier, parce que quand bien même il y a des télétransmissions dans tous les sens, il peut se glisser parfois quelques erreurs, des petites cases à corriger, et notamment sur les sujets qui concernent l'épargne salariale ou l'épargne retraite, parce que finalement tout n'est pas parfois communiqué au bon endroit, donc il est important effectivement de bien se poser et de prendre le temps de la faire pour soit bénéficier de tous les avantages qu'on a voulu mettre en place si on a eu une stratégie l'année précédente, soit éviter de trop déclarer parfois si certains montants sont erronés.
Attention, on le rappelle, l'automatisation, le remplissage automatique de votre déclaration d'impôt ne vaut pas pour valider parce que ces montants, vous devez en tant que contribuable les vérifier, même si votre déclaration elle est pré-remplie avec certains montants, vérifiez-les parce qu'ils ne sont pas garantis. C'est important de le rappeler et ça nous concerne aussi pour tous les sujets d'épargne salariale. Alors d'abord, on va, je veux dire, outiller nos auditeurs et nos auditrices. Il y a des documents clés pour la déclaration d'épargne salariale qu'il faut avoir en tête. Quels sont ces documents?
Chaque année, effectivement, quand vous êtes détenteur d'un plan d'épargne salariale ou d'un plan d'épargne retraite, vous allez recevoir en début d'année trois documents clés effectivement sur lesquels vont se retrouver les montants qui seront à reporter dans votre déclaration au mois de mai, les montants concernant l'année précédente bien entendu. C'est d'une part le relevé annuel de situation que vous recevez de la part de votre prestataire, de votre teneur de compte en épargne salariale. C'est également l'IFU, l'information d'ordre,
l'imprimé fiscal unique,
exactement, l'IFU que vous recevez de vos banques pour tous les placements que vous avez par ailleurs, mais que vous recevez aussi de la part de votre acteur d'épargne salariale et d'épargne retraite.
Alors attention, on le reçoit parfois, il faut être assez proactif pour le recevoir.
Effectivement, il y a certains acteurs qui peuvent traîner un petit peu pour communiquer ce document, mais normalement, effectivement, c'est une obligation de la part des acteurs, quels que soient les produits financiers que vous détenez, de vous envoyer cet IFU et de vous l'envoyer évidemment avant la période de déclaration. Donc généralement, ça arrive dans le courant du premier trimestre. Parfois, effectivement, il faut aller le réclamer parce qu'on l'a pas reçu.
Donc, relevé annuel de situation, IFU pour imprimé fiscal unique, et puis un autre document que vous avez peut-être en tête qu'il faut avoir pour pouvoir remplir.
Et vous recevez aussi un document qui est un document d'information d'ordre fiscal ou de données fiscales. En général, vous recevez ce document-là aussi. Et donc, c'est effectivement les trois documents à avoir entre ses mains, on va dire, au moment de faire sa déclaration pour reporter ou vérifier les montants en jeu.
Benjamin Pedrini, d'Epsor, quels sont les opérations qu'il faut tout simplement déclarer aux impôts et ne surtout pas oublier?
Alors, s'agissant de l'épargne salariale et de l'épargne retraite, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. D'une part, l'épargne salariale, c'est bien évidemment généralement des primes d'intéressement, des primes de participation que vous avez perçues. Ces primes, tous ceux qui les placent sur un plan d'épargne savent qu'ils les placent parce qu'elles sont exonérées d'impôt sur le revenu lorsqu'ils les placent sur un plan d'épargne. En revanche, certains font le choix de les percevoir sur leur fiche de paye et d'être payés de ces primes. Eh bien, ces primes-là, il faut, dans certains cas, les déclarer parce qu'elles ne sont pas forcément automatiquement transmises à l'administration fiscale. Donc, il faut
notamment pour les salariés.
Exactement, les salariés qui perçoivent cette prime-là, lorsque cette prime a été versée non pas par leur employeur, mais par leur prestataire d'épargne salariale, et bien dans ces cas-là, il faut vérifier qu'elle a bien été intégrée au revenu fiscal de référence et dans la partie justement traitement et salaire de la déclaration d'impôt sur le revenu. Ce qui est important de vérifier, surtout parce que là, on est plutôt sur un sujet justement qui va toucher à la diminution de votre imposition, c'est si vous avez fait des versements volontaires sur vos plans d'épargne retraite et des versements volontaires défiscalisés. Et ça, c'est vraiment un point à vérifier parce que vous avez mis en place au cours de l'année précédente une stratégie pour réduire votre imposition. Oui. Donc, encore faut-il bien la déclarer pour que cette imposition soit réduite. Donc là, bien vérifier effectivement que les montants que vous allez retrouver dans votre IFU, ce fameux imprimé fiscal unique, les montants que vous allez retrouver au titre de l'épargne retraite sont bien reportés dans les charges déductibles de votre déclaration d'impôt. C'est pour un peu de précision dans les cases 6 NS de votre déclaration d'impôt sur le revenu sur la partie charge déductible, et donc là bien vérifier ces montants là. Et puis d'autres éléments à vérifier qui concernent l'épargne salariale et l'épargne retraite, c'est l'abondement que certains ont pu toucher sur leur plan d'épargne retraite.
En gros, si j'ai perçu de l'abondement, est-ce que je déclare oui ou non?
Alors, justement, il y a une subtilité sur l'abondement, c'est-à-dire que vous devez reporter dans votre déclaration d'impôt l'abondement que vous avez perçu uniquement sur votre plan d'épargne retraite, pas celui sur le plan d'épargne entreprise, uniquement sur le plan d'épargne retraite. Vous devez le reporter. Pourquoi? Parce que en fait, il va permettre de calculer votre plafond d'épargne retraite. C'est pas un montant sur lequel vous allez payer des impôts sur le revenu, mais il va être intégré à votre plafond d'épargne retraite. Et donc ça, c'est justement un montant à imputer dans votre déclaration.
Si mes placements retraite ont bien travaillé et que j'ai fait des plus-values, est-ce que ces plus-values liées à mon épargne salariale ou mon épargne retraite, je dois les déclarer?
Alors, tant qu'elles sont dans votre plan, vous ne devez pas les déclarer. Le principe effectivement des plus-values, et ça c'est le cas pour la quasi-totalité des produits financiers comme vous le savez, vous allez les déclarer uniquement lorsque vous retirez ces sommes. Donc si vous retirez des sommes de votre plan d'épargne retraite, eh bien, dans ce cas-là, il y a plusieurs éléments auxquels il faut faire attention. Puisque sur votre plan d'épargne retraite, vous avez pu faire des versements défiscalisés. Mmh. Le principe des versements défiscalisés sur les plans d'épargne retraite, c'est qu'on les défiscalise à l'entrée, mais ils sont fiscalisés à la sortie. Donc, si vous faites un retrait de votre plan d'épargne retraite d'un montant qui avait été défiscalisé à l'entrée, eh bien, vous devez l'intégrer dans votre déclaration de revenus pour la partie capitale. Et ce montant-là sera imposé au niveau du taux de votre barème progressif d'impôt sur le revenu. Mmh. Et la plus-value relative à ce capital qui a été placé, eh bien, celle-ci, elle sera imposée au prélèvement forfaitaire unique de 30%. Vous avez une option, puisque effectivement vous pouvez avoir un taux d'imposition dans le cadre du barème progressif qui est inférieur à 30%. Vous avez l'option de choisir de ne pas être imposé sur cette plus-value au PFU, mais d'opter pour le barème progressif. Attention en revanche, parce que si vous optez pour le barème progressif, c'est valable pour tous vos produits financiers et pas uniquement pour les plus-values liées à votre épargne retraite.
Attention donc aux choix que vous faites, parce que plus tard, vous pourriez les regretter. On ne va pas pouvoir lister tous les sujets. On a souligné quelques pièges et quelques éléments à avoir en tête. Je vous fais un peu de pub. Vous avez publié avec l'équipe d'Epsor un petit guide qui nous aide justement à bien avoir en tête les rubriques importantes et les cases à cocher. Où est-ce qu'on peut retrouver ce guide ?
Alors, ce guide, vous pouvez le retrouver sur le site d'Epsor, hein, epsor.fr. Effectivement, nous, on aide effectivement les épargnants dans toute leur démarche. On les aide à la fois dans leur choix de placement. On les aide dans ces moments-là où ils doivent être confrontés à ces sujets, et c'est parfois assez anxiogène finalement de remplir sa déclaration d'impôt. Et donc du coup, ça, on a des guides publics qui sont valables et qui sont accessibles à toutes les personnes qui viennent se connecter sur notre site. Et puis évidemment, pour les salariés qui ont des plans d'épargne chez nous, ils ont accès à nos conseillers également pour les aider dans ces démarches-là.
Voilà, on vous a coaché épargne retraite et déclaration d'impôt, Benjamin Pruitrini d'Epsor. C'est quand ça retrouve en podcast et en replay sur notre application et notre site. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Lorraine.
Vous restez avec nous, on continue à s'occuper de vous. On va notamment parler pétrole, métaux et même peut-être un petit peu de denrées agricoles, parce que leurs évolutions se placent au centre des scénarios de marché possibles. Ce sera avec Benjamin Louvet dans moins d'une heure. Avant ça, on parlera immobilier. Mais tout de suite, on part en pub. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business.